Voilà, Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Je vais continuer mon excursion dans les commandements de Dieu en espérant pouvoir aller jusqu'au bout, c'est-à-dire la transmission radio-silence, ce qui ne va pas toujours tout seul étant donné mon incompétence en la matière. Je vais parler aujourd'hui du troisième commandement de Dieu. J'ai intitulé ça « Paresse et contemplation ». Le texte de ce commandement est « N'oublie pas de sanctifier les jours de fête ». Alors que l'on répète à l'envi que nous entrons dans l'ère des loisirs, que se multiplient les propositions de voyages d'agrément aux quatre coins du monde, le dimanche se trouve menacé. Des pressions de plus en plus fortes sont exercées pour que les deux jours de repos hebdomadaires puissent être pris par roulement tout au long de la semaine. Les fêtes religieuses, en particulier chrétiennes, sont mises au second rang. Si Noël tient bon, parce qu'il est magnifiquement situé au cœur de l'hiver et qu'il permet, joint au premier de l'an, une salutaire trêve des confiseurs, Pâques est maintenant détaché des vacances scolaires, on a des vacances en carême, n'ai-je pas entendu un syndicaliste communiste proposer que le 15 août soit travaillé pour permettre un pont à l'occasion du 14 juillet. Quant au dimanche, il n'est hélas plus rare qu'il soit jour d'examen. Il faut reconnaître que certaines autorités religieuses se sont montrées plutôt molles sur ce point. S'il est certain qu'une messe anticipée au samedi après-midi peut rendre service à des voyageurs, peut-être à des personnes très âgées, que penser de ceux qui en usent systématiquement, car comme me l'a dit une fois quelqu'un qui était pourtant dans la force de l'âge, ensuite on regarde la télévision et le dimanche nous sommes tranquilles. On s'éloigne de plus en plus de l'obligation de sanctifier le jour du Seigneur. Personne ne nie la nécessité du repos, et cela depuis les temps les plus anciens. Élie, Jonas sont décrits dans la Bible en train de dormir, on voit ça dans le livre des Rois chapitre 3, ou dans le livre de Jonas chapitre 1. Notre Seigneur a connu la fatigue, ne serait-ce que lorsqu'il s'assit au bord du puits où vint le voir la Samaritaine. Il était endormi dans la barque secouée par la tempête. Et surtout, le Créateur se reposa le septième jour, ce qui a été écrit pour nous montrer que nous devions nous reposer. C'est Satan qui est représenté comme n'ayant aucun repos, errant sans cesse dans des lieux arides. Cela montre bien que nous devons plaindre ceux qui travaillent 360 jours par an, comme, paraît-il, certains Asiatiques, et qui ne sauraient en aucun cas nous servir de modèle, car ils sont esclaves de maîtres rapaces ou de leur propre cupidité. Il importe de se rappeler plus souvent cette belle phrase que peu savent être tirée de l'Évangile, elle se trouve au sixième chapitre de l'Évangile de saint Matthieu, « À chaque jour suffit sa peine ». Il faut d'ailleurs remarquer que personne ne peut travailler indéfiniment, du moins s'il le fait avec intensité. Qu'il me soit permis de rapporter un souvenir personnel. Ayant été élève dans ce qu'il est convenu d'appeler les classes de taupes, je puis affirmer qu'après 3 ans d'un régime d'études intensifs, nous étions devenus des athlètes intellectuels. Or, le jour du concours, la durée totale des épreuves était limitée à 6 heures, exceptionnellement 7. C'est à mon sens la limite supérieure de la durée d'un travail intensif, du moins dans le domaine cérébral. De même, il y a nécessité de la fête. La fête est tout aussi nécessaire que le repos. Toutes les civilisations ont rythmé de fête le cycle des années et de la vie des familles. Entrée dans la vie, circoncision, baptême, mariage, deuil, etc. C'est une fête, les noces de Cana, qui marqua le début de la vie publique de Christ. On y servit le meilleur vin, alors qu'on était déjà un peu gris, voire le deuxième chapitre de l'Évangile de saint Jean. Il fallut attendre le jansénisme et le puritanisme pour que d'austères censeurs se croient tenus de tenser les jours de liesse et à leur suite les sinistres existentialistes pour chanter Joël les dimanches. Le Canadien Félix Leclerc riposta par une autre chanson dans laquelle il disait en substance que ceux qui n'aiment pas le dimanche n'ont probablement jamais trimé le long d'une semaine entière. Cela dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez ou quelque autre chose que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu, comme le disait saint Paul aux Corinthiens dans le chapitre 10. Même ceux qui veulent rester à l'écart du message chrétien donnent à la fête une autre dimension que purement matérielle. Habits de fête, chants et danses, ou tout simplement une belle nappe, un bouquet de fleurs, quelque chose de gratuit. Il est indubitable qu'un travail acharné tend à accaparer complètement les facultés vitales de l'homme. Après un grand chagrin, bien des hommes s'étourdissent dans le travail, ce qui est certes mieux que de s'abrutir dans le vin. Dès lors que l'exercice de la plus haute qualité, la faculté d'adoration, risque d'être mise au second plan, il faut rappeler sans cesse que la contemplation est supérieure à l'action dont elle est normalement la source. Une action sans contemplation tourne rapidement une course à l'efficacité pour elle-même, avec tous les dangers qui en découlent. Nous le voyons bien actuellement. L'action sans conscience ne vaut guère mieux que la science sans conscience, dont Rabelais affirmait qu'elle était une ruine de l'âme. Une fête complète ne se conçoit que si elle intéresse tout l'homme, y compris ce qu'il a de plus élevé. Pasteur était ce que l'on appelle un bourreau de travail, mais la petite église de sa ville d'Arbois signale par une plaque l'endroit où il avait coutume de prier. Le travail est donc une nécessité, à vrai dire antérieure au péché originel, dont l'effet fut de le rendre pénible. Avant la faute originelle, le Seigneur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, dans la Genèse chapitre 2. Mais le travail ne peut jamais être une finalité, car ayant sa source dans l'homme, il lui est inférieur. Ramener l'homme à sa capacité de travailler, à son emprise sur la matière, ne conduit qu'à le diminuer spirituellement. La raison avancée le plus souvent pour aménager des temps libres, c'est-à-dire les réduire à un repos purement organique, pouvant être pris n'importe quand, est d'ordre économique. Les outils modernes de la chaîne de fabrication à l'ordinateur sont d'une complexité en rapport avec leur puissance et entraînent des investissements considérables. Dès lors, il est bien tentant de ne considérer leurs desservants humains que comme des serviteurs, j'allais dire des esclaves, serviteurs de l'outil dont les nécessités doivent primer. Ce rôle de l'outil, qui évidemment du temps d'Aristote se résumait à quelques marteaux ou à quelques grattoirs, est devenu maintenant tellement épouvantable, tellement grand, comme toutes ces histoires d'ordinateurs, que nous assistons à des dérives inévitables, mais très dangereuses. Dans certains cas, ce peut être partiellement justifié. On ne peut arrêter une installation thermique chaque semaine sous peine de sérieuses avaries. Il faut des garde-malades nuit et jour. Mais un examen sérieux montre que ce sont des cas exceptionnels. Naguère, peut-être encore maintenant, je ne sais, il y avait à la foire de Paris une messe des exposants qui donnait à ceux qui le désiraient la possibilité d'y assister avant l'ouverture de l'exposition. L'ouverture des grandes surfaces des magasins de meubles ou de voitures relève beaucoup plus de l'esprit de lucre que celui de service. L'affaire n'est pas nouvelle, et on peut lire sous la plume du prophète Isaïe, chapitre 58, « Au jour de votre jeûne, on vous trouve traitant vos affaires et poursuivant vos débiteurs. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, et vous jouez du poing sans pitié. » Des gens sérieux affectent de s'occuper d'affaires sérieuses avec des sourires de croque-mort dans l'exercice de leurs fonctions. Mais ce n'est que l'amour de l'argent et de la puissance, c'est-à-dire d'eux-mêmes, qui les anime. Ce qui en définitive n'est guère sérieux, car on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un enterrement. La raison profonde est d'un autre ordre, et tous le ressentent parfaitement. Elle se résume dans l'expression bien connue « ni Dieu ni maître », variante humaine du satanique « non serviam ». Elle s'exprime parfois crûment, comme lors d'un congrès tenu à Royaumont, à propos duquel le professeur Lejeune rapporte qu'une intervenante déclara « nous voulons détruire la civilisation judéo-chrétienne ». Dans cette optique, Dieu n'est qu'une imposture, un empêcheur de tourner en rond, qui doit être écarté aussi radicalement que possible. Pour tuer toute vie spirituelle, le moyen est bien connu. Empêcher toute réflexion, toute contemplation, toute prière, s'abrutir et abrutir les autres dans l'action, dans une recherche d'efficacité pure. Ainsi, prisonnier d'un mouvement brownien accéléré, n'ayant plus ni samedi, ni dimanche, ni vacances, l'homme sera dans des conditions idéales pour oublier qu'il est créé à l'image de Dieu et à ce titre ordonné à participer à l'amour infini dans une éternité lumineuse. De même, la notion de fête est dénaturée, Il n'y a guère de fêtes familiales possibles, surtout un échelon assez large. Les fêtes officielles se réduisent à un lavage de cerveau collectif, ou bien un abrutissement sans raison particulière. On fait la fête et on s'enivre dans la drogue ou dans la boisson. On a largement daubé sur les bons repas qui suivaient les messes de minuit ou certaines premières communions. Mais que dire des soirées organisées dans les camps de toile, si ce n'est que du coup, la messe n'est même pas mentionnée. En conclusion, on peut rappeler le pape Jean-Paul II qui a dit « L'homme vaut ce que veut son amour ». Vouloir supprimer toute élévation vers Dieu, c'est mutiler l'homme de sa dimension la plus noble, sa capacité de recevoir l'amitié que Dieu lui offre. C'est bien dans ce sens qu'Isaïe donnait cette condition au bonheur. Si tu trouves le sabbat une journée exquise, si tu trouves respectable le jour consacré au Seigneur, c'est dans la prière que nous pouvons puiser des forces véritables pour une action débouchant sur une fécondité et non pas d'ordonner une simple efficacité. L'histoire nous apprend que les grands saints actifs ont d'abord été le grand contemplatif. Il faut affirmer bien haut la nécessité du repos et des congés, mais aussi leur donner une dimension spirituelle. Hantez, nous dit la mythologie, reprenez des forces en touchant la terre. Nous pouvons et nous devons en reprendre en nous replongeant en Dieu dans le cœur du Christ et de sa mère, au moins pour les incroyants, dans la contemplation des beautés qui nous entourent. Ajouter au jogging un quart d'heure de promenade pour contempler les merveilles de la nature, est-ce trop demandé? Ainsi, chaque dimanche sera l'occasion d'un nouveau départ vers notre famille, vers nos concitoyens, vers Dieu.